106.9 Mauricie. Santé. Que la Mauricie se lève. Voici Christiane Laberge.
Ouais, on l'aime pas mal, puis ces temps-ci, on l'aime encore plus, parce qu'on aime ça parler de santé, puis on a toutes sortes de questions qu'on se pose. Bonjour, Dr Laberge.
Bonjour, Catherine.
Dr Laberge, je vais partir d'un courriel que j'ai reçu, puis c'est exactement l'angle que vous voulez aborder ce matin, puis par la suite, on va répondre aux nombreuses questions des auditeurs. Il y a une auditrice qui m'écrit, parce que ce matin, j'ai parlé au Dr Marquis, qui travaille aux soins intensifs.
On l'aime.
Oh oui, on l'aime beaucoup. Et il y a une auditrice qui me dit, Catherine, je suis une personne âgée. J'ai déjà fait un infarctus. Et actuellement, là, je vais bien, mais j'ai peur d'avoir un malaise et j'aurais peur d'aller à l'urgence.
OK.
Donc, vous dites quoi à quelqu'un comme ça?
D'abord, une urgence, c'est une urgence. C'est bête comme réponse, là. C'est que les gens qui ont effectivement... Cette madame-là a, en guillemets, la chance de savoir quels sont ses symptômes. En général, on reproduit les mêmes symptômes quand on a le même phénomène. Ouais. Donc, si cette madame-là se sent en crise d'angine, elle s'en va, elle appelle 911, elle dit « je suis confinée à la maison, je n'ai pas de contact, et je, à condition de ne pas mentir, bien sûr, et je pense que je fais un infarctus, j'en ai déjà fait un, puis j'ai les mêmes symptômes. » Donc, elle s'en va à l'urgence parce que les couloirs d'urgence sont divisés. Les couloirs de prise en charge des COVID et le couloir des prises en charge des douteux, puis le couloir des prises en charge des pas pantoute. Mm-hmm. Donc, on a des urgences qui ne sont pas bondées actuellement, Dieu merci. Ça veut dire que les gens probablement n'amènent à l'urgence que leur cas d'urgence. Hein?
Oui.
Mais urgence, ça, c'en est une. Cardiaque. Comme les gens qui font des petites ischémies cérébrales. Tu tombes à terre d'un coup sec, tu te parles à toi-même, puis non, j'irai pas, non, j'ai pas le goût d'attraper. Non, oui, tu y vas. Tu y vas maintenant, tu conduis pas ta voiture, puis tu t'en vas à l'urgence. Tu dis, je viens de faire probablement un petit mini AVC, je suis correct, mais je sais qu'il faut que je voie le docteur maintenant. À ce moment-là, ils vont te dire quoi faire.
Okay.
À 911. Ça se peut que ça soit si tu as ton médecin de famille qui est disponible, parce qu'actuellement, les médecins de famille, il y en a qui sont surchargés de téléphone et de télémédecine. Mais au moins, ton médecin va te donner la consigne et en général, ça va être d'aller à l'hôpital pour faire les électros, les échos, les trucs comme ça. Puis après ça, de partir avec une médication pour éviter le tsunami qui va arriver plus tard.
OK.
Si t'en fais une petite, le risque que t'en fasses une grosse est important. Ouais. Donc, il faut quand même prévenir. Tu te pètes la fiole en marchant, tu penses que t'as une fracture. Ben, tu y vas. Une fracture, ça demande une intervention.
Ouais.
Alors, c'est quand c'est rapide d'évolution, relativement récent d'évolution, avec des signaux rouges. C'est-à-dire, par exemple, t'as mal dans le dos. C'est une douleur qui empire. Tu fais une grosse fièvre, tu t'en vas à l'urgence. Tu as l'impression d'avoir une fracture vertébrale. Tu pousses sur quelque chose, tu as un gros mal de dos, tu touches à ta vertèbre puis elle est très sensible. Pas tes muscles chaque bord. Les muscles chaque bord, souvent, c'est de la tension.
Ouais.
Mais tu touches à ton os puis ça fait
ça
mal.
Fait mal. Okay.
Urgence.
OK, parfait. Est-ce que vous êtes prête pour des questions en rafale, Dr Laberge?
Oui, ma belle Catherine.
OK, parfait. Il y a quelqu'un c'est Sylvie, qui m'a demandé tout à l'heure, elle dit, Dr Laberge, pourquoi est-ce qu'on limite la durée d'isolement à 14 jours pas au-delà de ça?
En fait, on la limite à 14, qui est en moyenne 6 jours, 5 jours après le moment où la maladie devrait se déclarer. Fait que, théoriquement, ça devrait se déclarer dans les 9 jours, puis on te rajoute des jours pour être bien sûr que tu n'as pas eu d'autres contacts intercurrents. Donc, notre quarantaine est plus longue que le temps potentiel de la déclaration de la maladie, de ses manifestations, parce que ça, tu peux avoir juste un rhumite, mais que ça en soit pareil, et qu'à ce moment-là, on joue sécuritaire. Fait que la marge de sécurité, c'est 14 jours.
OK. Dany m'a demandé tout à l'heure, il dit, Catherine, nous, on s'entraîne à la maison. On a des appareils, puis ma conjointe et moi, on s'entraîne, puis des fois, on est un à côté de l'autre. Il dit, est-ce que le virus peut se transmettre par le contact de la transpiration?
Nope.
Non?
Non.
OK.
Ce qui reste sur le corps, reste sur le corps.
OK, parfait. Alors, parce qu'il y a...
C'est les mains.
C'est vraiment les mains.
Puis la bouche, l'éternuement, la toux. C'est ça, ce sont des gouttelettes qui transmettent la maladie.
OK, parce qu'en fin de semaine, on entendait, si vous faites du jogging, gardez-vous à une distance plus que 2 mètres.
Ben oui, mais ça dépend si c'est quelqu'un que tu connais ou pas.
OK, bon.
Si c'est un inconnu,
voyez ça.
Puis il y a un gros éternuement en te regardant.
Oui.
Mettons que...
Oui, en effet, c'est un bon point.
C'est cela.
Danny, par texto 98985, dit « Le Québec et ses hôpitaux ont-ils des risques de se faire ramasser par la COVID-19 comme en Italie et en Espagne en termes de malades et de morts? » Il dit « J'ai peur de la réponse. »
N'aie pas peur de la réponse parce que, m'en taper ses mains comme Dr. Arruda fait, là,
oui.
Hein, on aplatit la courbe. Donc, on va être capable de les absorber. C'est ça qu'on veut. On tente pas zéro malade. On tente que les systèmes de santé, nos 6000 lits, ne soient pas pleins. C'est ça qu'on veut.
Mm-hmm.
On veut pas les remplir. Donc, c'est ça qu'on veut pas. L'autre chose, c'est que je vais être chienne un peu, là, parce qu'il y en a qui vont me trouver dure un peu. Mais, tu sais, en CHSLD, tu devrais avoir tes souhaits de fin de vie déjà faits.
Oui.
Hein? Et il y a des familles, tu sais, le frère qui revient de Saint-Ouen-Ouen, puis qui n'a pas vu maman depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis là, maman va mourir, puis on prend la décision de, ben oui, tu sais, c'est normal d'être au CHSLD, puis elle passera pas au travers.
Mm-hmm.
Ça fait qu'on va pas faire, on va pas prendre un respirateur, puis prendre l'intubation, puis prendre toute la patente pour qu'elle vive le martyr pendant encore 15 jours, parce que l'intubation, ouais. C'est ça, hein? C'est ouais. Plusieurs semaines. Donc, on va pas la mettre là-dessus. Elle va laisser sa peau, puis elle va être souffrante.
Okay.
Sauf que tu as le frère qui arrive et dit « Non, sauvez maman! »
Ouais.
Non, regarde. Ça, réglez ça entre vous autres là.
Exact, c'est le temps, là.
C'est le temps, là. Puis même avec vous-même.
Oui, tout à fait.
Même avec vous-même.
Oh, oui.
Réglez ça avec vous-même.
Nicole nous a écrit dans les dernières minutes, elle dit « Catherine, moi, j'ai fait une bronchite début pneumonie avant les fêtes. Est-ce que je suis plus à risque? »
Si vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas fumeuse, parce que les fumeurs, si vous avez une bonne occasion de vous motiver, c'est là. Parce qu'on sait que les fumeurs actuels l'ont plus dur que les autres. Fait que si vous voulez vous mettre à risque, mettez un petit papier sablé, puis promenez-vous pour attraper le virus. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, sur les poumons, bien sûr.
Mm-hmm.
Donc, théoriquement, si tu n'as pas de problème de bronchite chronique, si tu n'as pas de problème d'infection chronique, si tu n'as pas de diabète qui te prédispose à l'infection, si tu n'es pas asthmatique, ce qui te prédispose à l'infection, n'importe quelle infection, un rhume chez un asthmatique, ça dure 15 jours ou 3 semaines.
Mm-hmm.
Donc, si tu n'es pas prédisposé, non, c'est un accident de parcours.
OK, parfait. Il y a Olivier qui nous a écrit, qui dit qu'on entend beaucoup de fake news sur la COVID-19, entre autres sur pas de la façon dont guérir, mais prenez des boissons chaudes. Là, ça aide. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de théories. Il dit qui croire, qui ne pas croire?
Alors, qui croire? Si vous avez un test positif, rendez-nous service, les amis, et allez au numéro de Col Corona, C-O-L-C-O-R-O-N-A. Ça, c'est un une vraie étude sur la colchicine du docteur Tardif chez nous de l'Institut de cardio, on s'entend.
Mm-hmm.
Et deuxièmement, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner une cohorte de patients plus grand pour diminuer l'inflammation. Parce qu'actuellement, on commence à comprendre qu'avec le corona, tu peux avoir une inflammation cardiaque en plus de l'inflammation pulmonaire et que ça prédispose aux infarctus et aux accidents cardiaques.
Okay.
Donc, ça me donnerait une inflammation. Donc, col corona, ça pourrait être une étude avec un médicament qui pourrait apporter un bénéfice. Deuxièmement, il n'y a pas de moyen comme tel, l'eau chaude, l'eau froide. Le principe, c'est de se garder bien hydraté.
Mm-hmm.
Une muqueuse bien hydratée avec tes 6 verres d'eau par jour, c'est une muqueuse qui se défend mieux. Si t'es sec comme un bardeau, que t'as les pipis foncés, à moins de prendre des médicaments spéciaux, là, c'est parce que t'es pas hydraté. Donc, hydrate-toi avec de l'eau.
Mm-hmm.
Puis après ça, le reste. L'eau chaude ne protège pas. La vapeur ne protège pas. Le rhinosinus, ça protège tout le monde, surtout des autres virus qui pourraient confondre celui du corona.
C'est ça. Okay.
Parce que le corona, il a l'air de rien. Il a l'air de rien dans le sens que, outre le fait d'avoir de la fièvre,
mm-hmm.
d'avoir de la difficulté à respirer puis d'avoir de la toux, le reste, c'est n'importe quoi. Ça peut être un mal de gorge, de la guédille, de la toux.
Ouais.
C'est n'importe quoi. Fait que si tu fais ton sinus rince vraiment 2 fois par jour, le risque que tu colonises d'autres virus, celui de la grippe, celui du rhume ordinaire, celui... Puis là, n'hésitez pas, là, c'est les allergies qui commencent. Là. Je sais pas si vous avez commencé chez vous, mais les gens commencent à se gratter les yeux.
Absolument.
Les yeux coulent, les nez coulent comme de l'eau, puis ça coule plusieurs fois par jour. Si vous voulez prendre vos antihistaminiques, prenez-les. Mmh. Ça va vous éviter d'avoir la chienne de confondre ça avec le coronavirus.
Je continue. J'ai deux autres questions. Oui. Richard nous dit, Catherine, j'ai l'impression que de plus en plus, les symptômes, il y en a de plus en plus. Au départ, on disait ben c'est de la fièvre, c'est des difficultés respiratoires. Là, oups, bon, là, la toux, les problèmes gastriques, perte d'odorat, perte de goût. Ils disent,
ouais, ça, c'est drôle.
Mais pourquoi? C'est quoi le lien?
Le lien, c'est parce qu'avec l'usage, tu sais, comme dit l'autre, là, on fait l'avion en même temps qu'on la vole, tu sais, on la crie en même temps qu'elle vole. C'est qu'en rétrospective, ils ont réalisé qu'un des premiers symptômes d'une atteinte neurologique du coronavirus était la perte de l'odorat et du goût, secondairement.
OK.
Donc ça, c'est vrai. Si t'as ça, ça peut être un corona et théoriquement, tu téléphones et t'es justifié de te faire prélever. Deuxièmement, on sait qu'il y a des gens qui vont avoir une petite diarrhée qui va accompagner, un mal de ventre diarrhée, qui va accompagner cette toux, cette fièvre et cette difficulté respiratoire. Mais il y a des gens qui vont l'avoir tellement légèrement que ça va ressembler à un rhumette. Alors, c'est ça qui est la différence, c'est qu'on ne sait pas qui va le faire fort puis qui va le faire faible, c'est le même virus.
Okay.
Mais on sait que la perte d'odorat, ça serait un signe prémonitoire de la maladie.
Dernière question qui est revenue souvent, là, je viens de le recevoir à nouveau par texto. Les employés des hôpitaux devraient-ils s'éloigner de leur famille?
Ça dépend de ton degré. L'employé de l'hôpital qui travaille en obstétrique, théoriquement moins.
Okay.
En pédiatrie, théoriquement moins. Celle qui est dans le centre déterminé pour l'épidémie, non. Théoriquement, elle devrait dormir pas mal seule. Moi, en tout cas, j'aimerais ça que être une mère de famille docteur, moi, je coucherais tout seul, puis mes enfants, je les verrais plus de loin.
Ah oui? OK.
Bien, surtout avec la pénurie de masques, moi, ce qui me met en tabarnouche, c'est quand je vois plein de monde se promener sur la rue avec des masques qui ne toussent pas, puis qui sont à deux pieds, puis qui se lavent les mains. Vous n'en avez pas besoin,
non,
masque.
Exact. Ça a été dit
souvent. Vous volez ça au système de santé.
Docteur Laberge?
L'infirmière, elle n'a pas, elle.
En complément, là, la personne me répond, il est aux soins intensifs.
Oups! Ça, aux soins intensifs, c'est avec le COVID, là, dans le couloir COVID, ça dépend des hôpitaux. S'ils ont séparé le soins intensif du COVID, mais si tout le monde est dans sa remplace, mettons, à sa collègue, puis qu'elle n'est pas bien protégée, à ce moment-là, ben, c'est plus risqué, c'est sûr.
Okay.
Mais le président du Collège des médecins nous dit qu'on devrait sauver les patients puis en prendre soin, même si on n'a pas de protection.
Ouais.
Je pense que l'ère de Mme Tisdale est révolue, surtout quand tu as 4 enfants. Enfin, on va essayer.
On se laisse
là-dessus. On aimerait bien avoir des masques.
Mettons que dans un monde idéal, oui. Hein?
Mais tu sais, les madames qui sont dans l'infirmière, là, actuellement, là, plutôt que les gens gaspillent des masques verts à se promener sur la rue alors qu'ils n'ont pas un maudit système, puis qu'ils tiennent, ils n'ont pas de rhume, ils n'ont rien partout, là, ils n'ont aucune atteinte, là, puis qu'ils se promènent, ils respectent toutes les règles.
Mm.
Pouvez-vous faire des masques, mesdames, les infirmières? L'université Le CHU de Genève a mis des... qu'est-ce que ça prend pour faire des masques? Faites des masques, s'il vous plaît. Vous êtes habiles. Ça prend comme 5 minutes. Plus que ça, mettons. Une demi-heure, faire des masques. Des chutes de tissu. Profitez-en, puis faites ça. Vous allez rendre service aux infirmières, aux médecins, en libérant les masques verts.
Mais ça commence à s'organiser.
Oui.
Là. Je sais qu'il y a des gens, même des couturières, qui se mettent à faire des masques. Je veux juste vous raconter quelque chose en terminant. Je raconte aux auditeurs, parce que vous parliez des masques. En fin de semaine, j'arrête dans un stationnement, je m'en allais à l'épicerie, faire mon épicerie de la semaine, et je vois des gens arriver, un couple, la dame a un masque, et là, je l'entends tousser sa vie, et à côté, son mari fume dans le véhicule. Dans
la
catégorie, on s'aide pas trop, là. Je me suis dit, ouf!
Moi, dans ce temps-là, quand les enfants, dans les parents fumaient, puis qu'il arrivait, dans le temps, il arrivait avec la cigarette, le bébé dans les bras, puis le bébé qui choquait, il était quasiment bleu. Je disais, OK, on prend une décision ici, là. Est-ce qu'on le met en dessous du tuyau d'exhaust ou on le met à l'oxygène? Prenez une décision, parce qu'on va pas travailler un contre l'autre.
Non, en effet. Alors, on se laisse là-dessus, Dr Laberge, à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Salut, bye-bye. Dr Christiane Laberge, qui est avec nous les mardis, 8h45. Vous continuez. C'est bien le fun que preniez le temps de nous écrire texto. Ça fonctionne beaucoup aussi. Alors, j'essaie de poser le maximum de questions à nos médecins.